Nous sommes le 15 décembre, jour où il était initialement prévu que nous sortions de ce deuxième confinement, mais les chiffres moins bons que ceux qui avaient été anticipés ont conduit le gouvernement à alléger le confinement sans le lever totalement. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise mesure? Peut-être est-ce une demi-mesure? On fait le point sur la situation avec vous, docteur Jérôme Marty. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis les locaux de nos confrères de BFM, où vous intervenez tous les mardis matins. Vous êtes, nous l'avons dit aussi, médecin généraliste à Fronton. Vous êtes président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Vous êtes également l'auteur d'un livre. Il est paru chez Flammarion en septembre. Votre livre s'intitule « Le scandale des soignants contaminés ». Docteur Marty, le déconfinement total n'aura pas lieu. D'un point de vue sanitaire, est-ce une bonne ou une mauvaise mesure? Quelle est votre analyse?
Non, c'est malheureusement une bonne mesure. Je dis malheureusement parce que cette crise dure depuis maintenant quasi un an. Qu'on voit bien qu'elle provoque des fracas très importants sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Et malheureusement, nous n'en avons pas fini avec ce virus, puisqu'on assiste depuis maintenant environ 15 jours, 3 semaines, à une stabilisation des courbes qui passe en plateau, et même dans certaines régions, une nouvelle hausse de la contamination avec un R0, qui est le potentiel contaminant du virus, qui est en train de se rapprocher de plus en plus de 1. Or, vous savez que quand il dépasse 1, l'épidémie reprogresse. Donc il est normal qu'on fasse tout pour circonscrire cette nouvelle poussée.
Alors normal que l'on fasse tout, dites-vous. Vous avez également dit que c'était malheureux qu'il faille en arriver par là. Est-ce qu'il eût été préférable, à la limite, d'avoir le courage de dire « Noël, ça ne sera pas possible » Est-ce qu'on n'est pas dans le risque d'une demi-mesure qui nous fait là aussi encourir un autre risque, celui d'un confinement du coup en janvier?
On aurait pu dire cela si on était au deuxième mois de la crise, mais on est au 10e, 11e mois de la crise. Et c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire... D'abord, Noël est une fête à laquelle tiennent énormément les Français. C'est une fête familiale, c'est une fête religieuse. C'est une fête où les gens se rapprochent les uns des autres et vous avez des familles qui ne se sont pas vues depuis plusieurs mois. Et il était donc extrêmement difficile de dire, écoutez, on vous... déconseille de faire Noël. C'était en tout cas en pure perte que ce raisonnement aurait été tenu et certainement il y aurait eu plus de risques si on avait interdit, parce que les gens de toute façon tout laisse à penser qu'ils l'auraient fait quand même et peut-être en respectant moins les mesures barrières qu'en jouant la carte de vérité, la carte de transparence qui est la seule qui prévaut, c'est-à-dire ne pas considérer les gens comme des enfants mais bien comme des gens matures.
Et là, vous faites allusion à la capacité des Français à endurer. Hein, quand vous dites qu'on ne prend pas les mêmes mesures au début qu'à 10 mois d'épidémie, il y a la capacité à endurer ces mesures, à les supporter?
Bien sûr, on voit bien que c'est de plus en plus difficile à supporter. On a quand même changé nos vies depuis plus de 10 mois, encore une fois. On aspire tous à retrouver nos vies d'avant. Et malheureusement, ce n'est pas encore demain que l'on retrouvera nos vies d'avant, puisque on le voit dans toute l'Europe, mais également dans le monde. Et on a des pays d'Asie où l'épidémie reprend. On voit que l'Allemagne connaît une poussée exponentielle actuellement. Et tout porte à croire que l'on risque de vivre la même chose sur notre territoire. Alors, on a la campagne vaccinale qui va débuter. On a une politique de test qui est en train de se renforcer. On peut espérer qu'avec une bonne politique de test, une politique vaccinale et l'observation des consignes de sécurité et de protection, on arrive à circonscrire cette épidémie. Mais on peut légitimement quand même penser que ce virus va nous accompagner encore pendant plusieurs mois.
D'où la nécessité de faire prudence avec les mesures hein, restrictives et de ménager les Français. Alors, vous nous avez donné quelques chiffres, je vais les compléter si vous permettez. Hein, dans son point épidémiologique du 10 décembre dernier, Santé publique France fait état de 10 000 nouveaux cas par jour. Hein, donc, nous sommes effectivement loin des 5 000 visés par le gouvernement. Il y aurait 57 761 morts depuis le début de l'épidémie. Et concernant l'Occitanie, selon le dernier bilan de l'ARS qui remonte à vendredi dernier, vendredi 11 décembre. Il y aurait 4,7% de tests positifs en moyenne. Il y en a eu 106 000 réalisés ces 7 derniers jours. Actuellement, encore en Occitanie, 1412 hospitalisations. Docteur Jérôme Marty, aux incrédules, et il y en a encore, qui considèrent que c'est absurde de mettre à l'arrêt tout un pays, toute une économie pour protéger d'un virus qui ne tue que les personnes âgées, vous répondez quoi ?
D'abord, qu'il ne tue pas que les personnes âgées, puis ça veut dire quoi qu'il ne tue que les personnes âgées ? Qu'est-ce que c'est être âgé en 2020 ? Où commence le grand âge ? C'est 75 ans, c'est 80 ans, c'est 90 ans ? Les années qui restent à vivre quand on a 90 ans sont moins importantes que celles quand on a 50 ans ? Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai une maladie qui frappe, qu'en réanimation, j'ai des gens, des fois, de 40 ans, 45 ans, qui n'ont pas de comorbidité et qui se retrouvent pendant 3 semaines couchés sur le ventre, parfois intubés. Une maladie qui laisse des séquelles, qui peuvent être des séquelles profondes, graves, qui durent pendant des mois et des mois et des mois, que j'ai des Covid longs, des Covid chroniques, et que j'ai une maladie qui déstabilise à la fois mon pays sur le plan économique, autant que sur le plan sanitaire. Donc je crois que chacun doit jouer son rôle à plein. On est devant une maladie qui est une épidémie. C'est donc une maladie qui engage l'autre en passant par vous-même. Et donc, c'est une maladie qui demande une solidarité. C'est pas du tout comme le fait de manger n'importe quoi en disant, ben, moi, je m'en fous d'avoir du cholestérol. Ben, moi, si je mange n'importe quoi, ça va pas engager mon voisin. Par contre, si je ne me protège pas, j'ai tous les risques de contaminer mon voisin qui pourra peut-être, lui, faire une affection grave, symptomatique, ou la personne que lui-même contaminera parce qu'il a été contaminé et il ne le sait pas parce qu'il est asymptomatique, celle-là fera peut-être quelque chose de grave. Et donc, c'est chacun qui doit être solidaire des autres.
Alors, chacun solidaire, on l'entend, hein, des patients de 40 ans, vous en avez probablement dans votre cabinet de Fronton, mais on le sait, il y en a quand même en proportion moins que de patients âgés. Selon les travaux de l'Imperial College de Londres, dans sa dernière étude, le taux de létalité, donc le nombre de personnes atteintes par la maladie qui meurent, serait de 1%. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, malgré tout, pour un virus dont le taux de létalité reste très faible ?
Mais vous avez dit vous-même, 57 000 morts depuis même pas un an, à comparer avec les chiffres de la grippe, avec les autres chiffres. On va se rapprocher de 2 millions de morts sur la planète. On a un pays comme les États-Unis qui a plus de morts liées au Covid que de morts à la Première Guerre mondiale, que de morts au Vietnam. Donc on a une maladie qui véritablement a un très grand potentiel létal. Oui, 1%, mais comme vous avez des millions de personnes qui sont touchées, ce 1% au final fait malheureusement beaucoup de décès, beaucoup de malheurs dans les familles et de nombreux drames. Donc je crois que le fait de dire oui, mais ça tue qu'un pour cent des gens, encore une fois, c'est vouloir se cacher derrière son petit doigt et vouloir se cacher une vérité qui est une vérité qui bien souvent malheureusement est atroce.
En regard de ce 1%, il y a toutes les faillites, la crise sociale et sans compter la détresse psychologique aussi, hein, due au confinement. Chez nos confrères d'Europe 1, Serge Effez, le psychiatre, disait qu'aujourd'hui 20% des Français basculent dans la psychiatrie à cause de la situation.
Oui, et c'est bien pour ça que je vous disais que cette crise n'avait que trop duré. Et c'est pour ça qu'il faut mettre tout en œuvre pour en sortir le plus rapidement possible. Alors en sortir le plus rapidement possible, c'est passer par les tests, mais c'est certainement accélérer la politique de tests, non pas comme on le fait là actuellement en testant tout le monde à Roubaix ou que sais-je ou dans d'autres lieux, mais bien en changeant notre fusil d'épaule, en utilisant des tests salivaires, en allant chercher le virus là où il est, en étant proactif et non réactif, en ne laissant pas le virus nous dominer, c'est-à-dire donner le là et la temporalité, mais bien nous, en le précédant, en allant le chercher dans les lieux où il y a des risques de forte contamination, et en testant tout le monde, c'est-à-dire que les entreprises qui pourraient avoir des automates qui permettent de faire du test salivaire pourraient tester tous les matins l'ensemble de leurs salariés, et tous les matins voir si oui, non, ils ont des salariés positifs et les écarter à ce moment-là. Et là, en faisant cela et en couplant cela ensuite aux tests RT-PCR et aux tests antigéniques tels qu'on les connaît dans les cabinets pour les personnes symptomatiques, à ce moment-là, on arriverait à dominer la maladie puisqu'on aurait en plus, à côté de ça, la politique vaccinale et le respect des gestes barrières. Il faut aller très vite pour en sortir. On ne peut pas supporter que l'on continue à fermer la culture, à fermer les restaurants, à précipiter les gens dans la faillite parce qu'on est trop lent dans les mesures prises pour endiguer cette maladie.
Alors, vous avez parlé du vaccin. Pourquoi ne pas chercher un traitement plutôt que vouloir piquer toute la population ?
Mais il est en recherche, le traitement, mais à l'inverse du sida, où on a trouvé un traitement et où on n'a jamais trouvé de vaccin, là, on est arrivé à mettre en œuvre un vaccin, mais on n'arrive pas à mettre en œuvre un traitement efficace pour l'instant.
Alors, le vaccin, hein, selon un sondage IFOP pour le JDD, c'était le 28 novembre, seuls 41% des Français seraient prêts à se vacciner, ça fait moins d'un sur deux. Est-ce que vous les comprenez, ces chiffres ?
Moi, je les comprends et je suis même agréablement surpris.
Ah.
Pourquoi ? Parce qu'on est devant une affection qui est inconnue, qui est nouvelle. On est devant des vaccins dont certains sont une technologie nouvelle. Et donc, il est normal que l'on ait des gens dans le doute. Et le fait qu'on ait 40% de gens qui ne sont pas dans le doute, c'est déjà bien. Ensuite, ils vont passer dans nos cabinets. On va leur expliquer sur le plan scientifique les tenants et les aboutissants de ces vaccins-là. Et en fonction des arguments scientifiques qu'on leur aura donnés, en fonction du soin que l'on aura construit avec eux, en conscience, ils se prononceront sur la vaccination qu'ils feront ou pas. C'est aux gens de décider, ce n'est pas une vaccination obligatoire, mais nous, on leur doit ce qu'on appelle le consentement éclairé. Pour leur donner le consentement éclairé, il faut qu'on ait les éléments scientifiques pour pouvoir le leur exprimer.
Alors là, se pose un autre problème, hein. C'est la parole du médecin. Nombreux se sont exprimés un peu partout sur les ondes, vous le premier. Est-ce qu'on fait encore confiance aux médecins alors même que les médecins se contredisent ? Je crois que vous faites en ce moment même l'objet de menaces de mort par les anti-vaccins.
Oui, vous savez, il y a une différence entre avoir confiance dans la médecine et avoir confiance en son médecin. Les gens ont confiance en leur médecin, dans des taux qui sont répétés chaque année, 88% à 94% pour les gens qui ont des affections chroniques. Donc il y a une profonde confiance dans les médecins. Ensuite, sur les menaces que peuvent recevoir certains médecins, il ne faut pas confondre les antivax, qui eux sont perdus pour la science en quelque sorte, puisqu'ils sont dans des raisonnements complotistes, négationnistes, etc. Et les gens dont vous parliez tout à l'heure, qui sont les gens qui sont dans le doute. Les gens qui sont dans le doute sont en demande d'informations, et ça ne veut pas dire qu'ils ne se vaccineront pas. Les antivax, eux, je crois que c'est peine perdue d'essayer de les convaincre.
Vous parlez des anti-vax. En même temps, avoir des scrupules et être un peu sceptique par rapport au vaccin, vous le comprenez. Et d'ailleurs, ici même, hein, il y a 6 mois, nous recevions Olivier Nérol, qui est chercheur du CNRS à l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale de Toulouse. Il nous disait que ce serait un exploit de trouver un vaccin d'ici 2022. Alors là, en fin d'année, on en a un. C'est normal peut-être que ça nourrisse quelques soupçons.
Oui, c'est normal, mais d'un autre côté, nécessité fait loi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à un moment de notre histoire qui est extrêmement particulier. On est devant une pandémie, c'est-à-dire un moment de la Terre où l'ensemble des hommes de la planète sont soumis à la même problématique. Et donc, il est normal qu'on ait mis les moyens, qu'il y ait eu une recherche pour trouver le plus rapidement possible ce vaccin de façon à endiguer cette épidémie qui, encore une fois, nous frappe tous durement. Donc, moi, je suis pas. Ça peut être étonnant, si vous voulez, qu'on soit allé vite, mais d'autre part, on a quoi ? On a 2 vaccins qui sont à technologie ARN. Cette technologie, elle est connue depuis plus de 10 ans. Elle n'était pas appliquée pour les vaccins. Elle permet quoi ? Elle permet d'aller beaucoup plus vite, justement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi et qu'ils ont choisi cette technologie. Qui peut faire peur quand on joue sur les mots et qu'on va parler de thérapie génique alors que ce n'est absolument pas de la thérapie génique et qui a quelques effets secondaires qui sont les effets secondaires qu'on pouvait connaître les gens qui ont 50 ans et ont connu des vaccins qui donnaient de la fièvre quasi à chaque fois, qui donnaient des douleurs au point d'injection. Ce sont des choses qu'on connaît, ça. Ensuite, on va suivre les patients pendant des mois, voire des années. Il est tout à fait possible qu'on découvre de nouveaux effets secondaires qui seront probablement bénin aussi, mais qu'il faudra suivre. Et tout le problème est de peser le bénéfice-risque, le bénéfice par rapport à cette maladie et le risque qu'il y a à utiliser ce type de vaccin par rapport à cette maladie et ce qu'elle peut occasionner elle aussi comme risque.
Un dernier mot, docteur Jérôme Marty, ça va ressembler à quoi la soirée de Noël chez vous ?
Ben, ça va ressembler à ça va ressembler chez tous les Français, c'est-à-dire à une jauge de 6 personnes. Et puis, les autres membres de la famille à distance, malheureusement. Et puis, une certaine tristesse de ne pas pouvoir faire ce que faites comme on le fait d'habitude.
Un grand merci, docteur Jérôme Marty, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur généraliste à Fronton, également l'auteur d'un livre, Le scandale des soignants contaminés. C'est aux éditions Flammarion, publié en septembre dernier. Merci à vous.
Merci à vous. Au revoir.